Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du 26 septembre 2017, en direct de Washington. Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara, interrogée hier par la police.
En Guinée, la CENI propose la date du 4 février 2018 pour la tenue des élections locales, reportées à maintes reprises.
Au Nigeria, 60 membres présumés d'un mouvement réclamant l'indépendance du Biafra ont comparu hier devant un tribunal.
La Maison-Blanche précise que le président Donald Trump n'a pas déclaré la guerre à la Corée du Nord.
Le vote massif des Kurdes irakiens en faveur de l'indépendance suscite un tollé. Appel au dialogue du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara a été interrogée hier par la police, tout comme sa mère et sa sœur, après leur arrestation samedi. Madame Rwigara avait tenté de se présenter à la dernière présidentielle face à l'homme fort du pays, Paul Kagame. Lors de l'enquête en cours, la police a découvert des preuves crédibles liant le trio à des infractions contre la sécurité de l'État. D'après un communiqué du porte-parole de la police rwandaise, Théos Badégué, que l'AFP a pu consulter lundi. Dans une interview accordée à l'AFP la veille de son arrestation, Diane Rwigara avait dénoncé le caractère politique, selon elle, de ses ennuis judiciaires.
En Guinée, la commission électorale indépendante a proposé lundi de fixer au 4 février 2018 la tenue des élections locales, une date approuvée par l'opposition qui réclame la tenue de ce scrutin repoussé à de nombreuses reprises. Des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté le 20 septembre à Conakry pour exiger l'organisation de ce scrutin qui n'a plus eu lieu depuis 12 ans. Avant l'annonce de la CENI, l'opposition avait annoncé son intention de manifester à nouveau mercredi pour réclamer ces élections.
Au Nigeria, 60 membres présumés d'un mouvement réclamant l'indépendance du Biafra ont comparu hier devant un tribunal. La justice a décidé de les maintenir en détention provisoire. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les inculpés, tous désignés comme membres du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, IPOB, sont accusés de nombreuses infractions, dont tentatives de meurtre et actes de terrorisme. Selon le porte-parole de la police de l'État d'Abia, Geoffrey Ogbana, l'affaire a été ajournée au 25 octobre. 7 autres personnes ont également comparu pour les mêmes chefs d'inculpation la semaine dernière à Abia. Les tensions vont croissant dans la région depuis l'arrestation en octobre 2015 du leader du groupe Nnamdi Kanu, détenu jusqu'à sa libération sous caution en avril dernier. Son procès pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État va débuter à Abuja en octobre. Le 15 septembre, le gouvernement nigérien a officiellement classé le mouvement indépendantiste comme organisation terroriste. Abuja accuse ce groupe d'attiser des tensions en faisant courir de fausses informations sur un prétendu génocide contre les Igbo.
Le célèbre opposant zimbabwéen Evan Mawarire a plaidé non coupable hier des accusations de tentative de renversement du gouvernement du président Robert Mugabe. Il avait été arrêté la veille pour avoir mis en ligne une vidéo soulignant les problèmes économiques du pays. Le juge lui a accordé une libération sous caution de $200 et lui a demandé de se présenter une fois par semaine dans un commissariat. En juillet 2016, Evan Mawarire avait participé à l'organisation d'une grève paralysante qui avait bloqué les principales villes du pays, forçant le gouvernement à interdire les manifestations publiques. Le pasteur âgé de 40 ans a été arrêté par la police dimanche en plein office religieux.
De violents affrontements liés à un différend territorial en Éthiopie entre deux des principaux groupes ethniques du pays ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés depuis début septembre, a annoncé lundi le gouvernement. Ces affrontements ont opposé des membres des ethnies Oromo et Somali le long de la longue frontière entre leurs régions respectives dans l'Est et le Sud-Est. Le président de la région Oromo, Lemma Megersa, avait assuré mi-septembre qu'ils avaient donné lieu à des tueries brutales et poussé 50 000 personnes à fuir la zone.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump n'a pas déclaré la guerre à la Corée du Nord. La Maison-Blanche a tenu à clarifier par ses termes la position des États-Unis suite à une menace de Pyongyang d'abattre tout avion américain violant son espace aérien, voire si ces avions ne sont pas dans son espace aérien, Gabi Dorsil.
L'escalade verbale continue entre Donald Trump et le régime nord-coréen. Cette fois, le chef de la diplomatie de Kim Jong-un, Ri Yong-ho, a affirmé que son pays a fait l'objet d'une déclaration de guerre des États-Unis, ce que la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a catégoriquement démenti lundi dans un point de presse. Cela fait suite aux propos tenus la semaine dernière à l'Assemblée générale de l'ONU par le président Trump et à une démonstration de force le week-end écoulé de l'aviation militaire américaine qui a fait voler des bombardiers stratégiques près des côtes de la République populaire et démocratique de Corée. Insultes et menaces réciproques se multiplient depuis quelques jours entre les deux gouvernements. Le Pentagone prépare les options militaires pour le président Trump au cas où Pyongyang n'arrêterait pas ses provocations, selon le porte-parole du département américain de la défense, le colonel Robert Manning.
Toujours à Washington, la minorité démocrate à la Chambre des représentants appelle à une action immédiate sur le sort de 800 000 immigrés arrivés en bas âge illégalement aux États-Unis en compagnie de leurs parents. Les députés démocrates ont utilisé une manœuvre parlementaire inhabituelle pour forcer les leaders de la majorité républicaine à soumettre au vote une proposition de loi pour résoudre le statut de ces jeunes « dreamers ». Au début du mois, le président Donald Trump avait demandé au Congrès de trouver une solution définitive après avoir abrogé le programme DACA de son prédécesseur Barack Obama qui offrait à ses immigrés une protection contre l'expulsion.
D'autre part, la dernière tentative des Républicains pour abroger l'Obamacare, le programme d'assurance maladie de M. Obama, semble avoir échoué après que la sénatrice républicaine Susan Collins a annoncé son opposition au dernier plan proposé par ses collègues. Deux autres sénateurs avaient auparavant dit non. Or, les républicains qui contrôlent 52 des 100 sièges à la Chambre haute ne pouvaient perdre que deux votes face à la minorité démocrate qui a décidé de faire bloc contre le projet. Le seul espoir qui leur reste est donc de convaincre assez de contre de la nécessité de changer de position.
Le vote massif des Kurdes irakiens en faveur de l'indépendance suscite un tollé et un appel au dialogue de la part du secrétaire général de l'ONU, les précisions de Michel Joseph.
Les résultats du référendum sont attendus mardi soir, mais il est clair que les Kurdes irakiens, dans leur écrasante majorité, se sont prononcés en faveur de l'indépendance. Le Parlement irakien, réuni lundi à Bagdad, en l'absence des élus kurdes, a appelé au déploiement de l'armée dans les zones dont le gouvernement national et la région autonome du Kurdistan se disputent le contrôle. La Turquie et la Syrie, qui ont leur propre minorité kurde, ont dénoncé le référendum. Ankara compte fermer sa frontière terrestre avec cette région et menace par ailleurs de bloquer les exportations de pétrole du Kurdistan irakien à travers son territoire. Le patron de l'ONU a pour sa part appelé au dialogue et à des compromis entre le gouvernement irakien et les autorités du Kurdistan. Antonio Guterres se dit préoccupé par les risques de déstabilisation que pose le référendum d'autodétermination des Kurdes irakiens. Dans l'espoir de calmer ses inquiétudes, le président du Kurdistan, Massoud Barzani, a assuré que le référendum ne serait pas automatiquement suivi d'une déclaration d'indépendance, mais plutôt de discussions sérieuses avec Bagdad sur les contentieux entre les deux parties.
En Cisjordanie, un Palestinien armé a ouvert le feu aujourd'hui sur des Israéliens près d'une colonie de peuplement, tuant trois d'entre eux avant d'être abattus. C'est ce qu'a annoncé la police israélienne. Depuis octobre 2015, Israël, Jérusalem et les territoires palestiniens occupés sont en proie à des violences sporadiques qui ont causé la mort d'au moins 295 Palestiniens ou Arabes israéliens. 50 Israéliens, 2 Américains, 2 Jordaniens, 1 Érythréen, 1 Soudanais et 1 Britannique, selon un décompte de l'AFP.
Human Rights Watch a accusé aujourd'hui certains dignitaires religieux et institutions sunnites en Arabie Saoudite d'inciter à la haine et à la discrimination contre des communautés religieuses, y compris la minorité musulmane chiite. Dans un rapport de 62 pages intitulé « Ils ne sont pas nos frères, discours haineux de responsables saoudiens », l'ONG de défense des droits de l'homme écrit que l'Arabie Saoudite a permis à des oulémas désignés par le gouvernement de parler de minorités religieuses en termes méprisants et de les diaboliser dans des documents officiels et des décisions religieuses.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira jeudi pour discuter des violences en Birmanie et aussi de la crise liée au sort de la minorité musulmane Rohingya. C'est ce qu'ont assuré lundi, selon l'AFP, des diplomates qui ont requis l'anonymat. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'adressera au Conseil lors de cette réunion réclamée par 7 pays, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Égypte, le Kazakhstan, le Sénégal et la Suède.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, volume record de 2 millions de tonnes de fèves acheminées vers les ports du pays. Il s'agit de la plus grande récolte de cacao jamais vue dans le monde. Elle avait atteint environ 1,5 million de tonnes l'an dernier. Les prix mondiaux du cacao ont toutefois chuté cette année, car la plupart des grands pays producteurs en ont produit tellement qu'ils ont créé une surabondance d'approvisionnement. L'Organisation internationale du cacao prévoit un excédent global de 371 000 tonnes cette saison. La croissance économique du Rwanda a ralenti à 4% au deuxième trimestre de cette année, près de la moitié des 7,5% atteints à la même période l'an dernier. Le ministre des Finances, Claver Gatete, dit toutefois s'attendre à des améliorations au troisième et quatrième trimestre grâce à une activité plus forte dans la construction, les services et l'agriculture. En Tanzanie, ralentissement des investissements dans l'industrie minière, des offres d'achat et plans d'exploration ont été annulés et des employés licenciés, conséquence directe des nouvelles lois adoptées par le gouvernement. Elles visent à mettre fin à ce que les autorités appellent un vol à grande échelle, mais aussi et surtout à permettre au pays de tirer plein profit de ses ressources naturelles.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En Europe, deuxième journée de la Ligue des Champions.
Et oui, l'armada du Real Madrid, double tenant du titre, se rend ce soir sur la pelouse d'un Borussia Dortmund très en forme lors de cette soirée de Ligue des Champions qui verra également s'affronter Manchester City et Pep Guardiola. Ils recevront les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Autre match, Séville contre Maribor. Liverpool se déplace à Moscou pour affronter le Spartak. Et puis Naples jouera contre Feyenoord. Monaco accueillera Porto au stade Louis II. Et puis Besiktas contre Leipzig. Enfin, l'Apoel Nicosie qui accueille Tottenham.
Coup dur pour la Juventus Turin.
Le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, a été condamné à 1 an de suspension et 20 000 euros d'amende pour une affaire de vente de billets à des groupes ultras. C'est ce qu'a annoncé hier la Fédération italienne de football.
Handball africain.
Eh oui, Cotonou accueille le tournoi cadet féminin de la zone 2 et 3 de la Confédération africaine de handball. 6 pays sont sur la ligne de départ. Les précisions d'Élisée Mpatine.
C'est le palais des sports du stade Mathieu Kérékou qui sert de cadre pour cette compétition. 6 pays répartis dans 2 groupes de 3 équipes. Dans le groupe A, nous avons le pays hôte, le Bénin, le Niger et le Ghana. Le Burkina Faso, le Togo et le Mali sont logés dans la poule B. Enlevé de rideau, le Burkina Faso a écrasé le Togo 44 à 10. En match d'ouverture, le Bénin s'est promené devant le Niger, score 26-11. Le président de la Fédération béninoise de handball a donné plus de précisions sur cette compétition. On écoute Antoine Bonou.
Il s'agit donc d'une compétition de développement qui vise essentiellement à offrir aux équipes cadettes des nations en développement un tournoi de haut niveau en dehors des compétitions classiques de la Confédération africaine de handball. C'est pourquoi, en dehors des matchs, une formation est donnée aux jeunes entraîneurs et arbitres des pays participants. Pendant la même période, il y aura un séminaire des directeurs techniques nationaux.
À noter que le tournoi prend fin vendredi prochain avec la grande finale. Cotonou, Élisée Rumpati, VOA Afrique.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le décret migratoire du président Donald Trump qui a ajouté le Tchad à la liste qui interdit ou limite l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 8 pays maintenant. Les réactions au Tchad avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
Les Tchadiens se disent désagréablement surpris de la décision du président Donald Trump leur interdisant d'entrer sur le territoire américain. Vu les accords de coopération entre les deux pays et vu l'engagement du Tchad sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme, le président Donald Trump ne devrait pas prendre une telle décision contre les ressortissants tchadiens, ont-ils affirmé. Dr Ngartebaï et Jeanne Lyota, juriste, politiste, analyste et indépendant, s'interrogent sur le mobile réel de cette décision.
Si cette décision est arrivée, c'est que le Tchad abrite un certain nombre de personnes jugées potentiellement comme des terroristes. Est-ce que les autorités américaines ont engagé des démarches auprès des autorités tchadiennes pour demander des informations relatives à ces personnes et que les autorités tchadiennes ne sont pas exécutées? Est-ce qu'on arrive à trouver des bagages suspects en provenance du Tchad? Est-ce que les autorités tchadiennes disposent de bases de données actualisées qui peuvent permettre de transmettre en temps réel les informations aux autorités américaines qui les souhaitent dans le cadre de lutte contre le terrorisme et que les autorités tchadiennes n'arrivent pas à le faire? C'est ça aussi les inquiétudes.
Dr Ngartebaï et Jeanne Lyota précise par ailleurs que cette décision est une incidence diplomatique et invite les autorités tchadiennes à clarifier la situation.
Oui, c'est une incidence diplomatique, bien évidemment, puisque c'est interdit à tous les tchadiens, y compris nos autorités. Donc la tension, elle est palpable. Que font nos représentants au niveau des États-Unis s'ils ne peuvent pas recevoir les compatriotes? Je pense que les jours qui suivent vont nous dire, à travers la position de l'État tchadien, le développement ultérieur de relations avec les autorités américaines.
Justement, la réaction du gouvernement tchadien ne se fait pas attendre. Au cours d'une déclaration faite ce lundi à son cabinet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingue, se dit ne pas comprendre la motivation réelle de cette décision.
Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Aussi, le gouvernement tchadien appelle-t-il à une meilleure appréciation de la situation et invite le président Donald Trump à reconsidérer cette décision qui porte gravement atteinte à l'image du Tchad et aux bonnes relations qu'entretiennent les deux pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Toutefois, le gouvernement ne souhaiterait pas être amené à user du principe de réciprocité dont l'application serait préjudiciable aux intérêts des deux pays.
André Kodmadjingar N'Djamena pour VO Afrique.
VO Afrique N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le Soudan, qui a été lui retiré de la liste des pays visés par le décret migratoire du président Trump, s'est engagé lundi à redoubler d'efforts pour normaliser ses relations avec les États-Unis. Les États-Unis qui doivent décider le 12 octobre s'il faut ou non lever complètement les sanctions prises contre Khartoum en 1997. Solange Niamoulissa a joint Mohamed Nagui, le rédacteur en chef de Soudan Tribune à Paris.
Ça intervient dans le cadre d'un processus de normalisation de relations. Les États-Unis ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas amener le gouvernement soudanais à effectuer un certain nombre de choses, c'est-à-dire des changements démocratiques par la force, par les sanctions, etc. Ils ont opté pour une autre approche de donner à Khartoum à chaque fois quelque chose. La levée des Soudanais de la liste des pays interdits d'entrer aux États-Unis, c'est parce que l'administration américaine se prépare pour le 12 octobre. Octobre prochain a annoncé la levée des sanctions économiques sur le Soudan. La levée des sanctions économiques, ça va être la première étape dans le cadre du processus de négociation et de normalisation des relations entre les deux pays.
Mais on ne sait pas encore si ça sera levé. Bon, c'est bientôt, c'est pour les 12, mais on ne sait pas, ce n'est pas encore déterminé.
Vous avez bien raison, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein d'autres indices qui indiquent que l'administration américaine se prépare à aller dans ce sens-là.
Est-ce qu'on peut dire alors qu'on va aussi vers une normalisation malgré les désaccords sur le Darfour?
Le processus de normalisation, c'est justement pour amener Khartoum à produire des changements dans le pays. Par rapport au Darfour, au fait, ce n'est pas le principal volet de la chose, mais le principal volet, c'est d'amener Khartoum à adopter des changements vers un régime démocratique. Quand on parle régime démocratique, c'est-à-dire, c'est plein d'autres choses. Le règlement de conflit du Darfour, l'administration américaine en veut autant des factions rebelles qui refusent de signer des accords de paix qu'au gouvernement soudanais. C'est-à-dire toutes les parties au conflit sont récalcitrantes. Washington est en train de mettre la pression sur les deux parties. Et c'est vrai, ça fait partie du processus de démocratisation, de normalisation, c'est-à-dire aussi de l'autre côté des relations entre les deux pays. Mais ce n'est pas seulement le Darfour. Il y a aussi un autre conflit. Il y a aussi les questions des libertés religieuses. Il y a les questions de la liberté d'expression, etc., etc.
Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Soudan Tribune à Paris.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
23 ans après le génocide au Rwanda, la banque française BNP Paribas se retrouve pour la première fois au cœur d'une enquête pour complicité. L'association anticorruption Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et l'ONG Ibuka France l'accusent d'avoir financé un achat d'armes au profit de la milice Hutu pendant le génocide de 1994. Une information judiciaire a été ouverte à Paris pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Pour en parler, Yakuba Ouedraogo a joint à Kigali le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, Alain Gauthier.
Nous reprochons tout simplement à BNP Paribas d'avoir, à la mi-mai 1994, financé un achat d'armement qui ont servi dans le génocide des Tutsis.
Comment le groupe bancaire BNP Paribas a pu financer les achats d'armes quand on sait que pendant cette même période du génocide, les Nations Unies ont décrété un embargo justement sur les armes au Rwanda?
Ça paraît assez extraordinaire de voir qu'une banque aussi importante que BNP Paribas ait pu, malgré l'embargo des armes, ça veut dire que certaines personnes se sentent au-dessus des lois, au-dessus des décisions internationales. L'argent n'a pas d'odeur.
Est-ce que vous savez comment la banque a procédé?
C'est difficile de vous le dire comme ça, parce qu'il faudrait que je me replonge un petit peu dans la plainte que nous avons déposée. C'est très très bien détaillé. Nous avons déposé une plainte vraiment très alimentée, très bien structurée, avec à l'appui nombre de documents qui, selon nous, prouvent que la banque BNP Paribas a financé cet armement.
Vous vous êtes constitué partie civile dans cette plainte. Qu'est-ce que vous demandez à la justice française?
C'est que la justice française, maintenant qu'une instruction est ouverte, eh bien, fasse toute la lumière sur ce qu'a pu être le rôle de la BNP Paribas. Ça pourrait aussi servir à d'autres à l'avenir. C'est une complicité de crimes contre l'humanité. Ce sont des événements extrêmement graves.
On sait que les relations ne sont déjà pas au beau fixe entre Paris et Kigali, du fait notamment des multiples accusations. Pensez-vous vraiment que la justice française puisse faire la lumière dans cette affaire de BNP Paribas?
C'est un juge d'instruction qui a été nommé, un juge d'instruction du pôle crime contre l'humanité. Nous ne comprendrions pas que ces juges-là, dont on dit qu'ils sont indépendants, ne puissent pas aller jusqu'au bout dans l'instruction de cette affaire. Il faut absolument, c'est nécessaire, même pour les citoyens français, pour les citoyens du Rwanda et les citoyens du monde entier, que cette affaire aille à son terme.
Joint à Kigali, le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, Alain Gauthier.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Lutte contre l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire. Une ville fait énormément parler d'elle dans ce cadre. Il s'agit de Daloa, troisième grande ville du pays, devenue la plaque tournante des départs vers l'Europe. Notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara s'est rendu sur place.
Daloa est à 384 km d'Abidjan et est la capitale du centre-ouest du pays. Grande région productrice de café et de cacao, la ville de près de 300 000 habitants tire cependant sa célébrité depuis quelques années de la place qu'elle occupe dans le trafic de jeunes en partance pour l'Europe. Lors de notre présence à Daloa, une ONG internationale, le Réseau des Africains de l'Allemagne, était en meeting de sensibilisation à Orly 2, l'un des quartiers de la ville.
Le désert, c'est le plus grand cimetière. Et c'est chaque jour, quand je quittais d'Agadez, on m'a dit, il y a 50 corps qu'on a retrouvés dans le désert. Il y a 57 migrants qui sont abandonnés dans le désert. Il faut les ramener sur Agadez.
À Daloa, de nombreuses familles, surtout au sein de la communauté malinké, mettent tout en œuvre pour faciliter le désert. départ de leur fils vers l'Europe. Les femmes n'hésitent pas à vendre or, bijoux et autres objets de valeur pour assurer le voyage à leurs enfants. Pourquoi Daloa est-elle devenue en quelques années la plaque tournante de ses départs vers l'Europe? L'ancien député Touré Lanciné, chef de communauté malinké de Daloa.
Tous les quartiers sont atteints, mais les parents sont un peu sourds à nos explications. Ils sont poussés par les parents, les mamans, les filles, ils sont poussés. Il faut partir, ils croient que c'est l'Eldorado. Et ça circule, il y a des maisons de recrutement, on voit très bien.
Pour Touré Lanciné, il faut s'attaquer à la lancinante question de l'emploi des jeunes si l'on veut freiner l'hémorragie que constitue l'immigration clandestine.
Il n'y a pas les mêmes possibilités dans les autres villes qu'ici. Manque d'emploi, le chômage chronique.
C'est inquiétant. Hein?
C'est inquiétant. Il faudra que les Européens nous aident avec les ONG. Si on peut empêcher, c'est mieux essayer de fixer les gens, créer des industries. Dans l'Ouest, il n'y a pas d'industrie.
Traoré Youssouf dit avoir vécu toutes sortes de difficultés en Libye. De retour à Daloa, il n'a cependant pas renoncé à son projet de se rendre coûte que coûte en Europe.
On peut rester au cas où on a des projets, des moyens un peu, sinon il n'y a pas de travail, rien ne va aller là. Il y a d'autres parmi nous qui sont mariés. Pour moi, je ne suis pas marié, mais je suis père de deux filles. Comment les prendre en charge?
En français ou dans les langues locales, tous les canaux sont aujourd'hui propices dans la sensibilisation contre le fléau qui constitue l'immigration clandestine. Georges Ibrahim Tounkara, Daloa, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Allemagne, la CDU d'Angela Merkel a certes remporté dimanche les élections législatives, mais c'est affaibli que la chancelière va tenter de former son prochain gouvernement. Avec environ 32,5% des voix, soit 9 points de moins qu'en 2013, son parti a subi des pertes. De son côté, l'extrême droite de l'AFD, Alternative pour l'Allemagne, enregistre une percée historique depuis la Seconde Guerre mondiale. Joint en Allemagne par Ekia Badou, Thomas Mosch, responsable du service Hausa de la Deutsche Welle, nous apporte un éclairage.
En général, ces résultats expriment un certain sentiment de proteste qui est là dans la population apparemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, là j'en suis sûr, qui ont voté pour l'AFD sans vraiment occuper avec leur programme des élections, parce qu'il y a beaucoup de choses dans leur programme qui vont contre les intérêts de ces gens qui ont voté pour eux, surtout dans le domaine de la politique sociale, où l'AFD a plutôt un programme qui est très proche au parti néolibéral et pas un programme qui soutient vraiment les pauvres. Il y a ce sentiment de proteste.
Alors ce sentiment de protestation dont vous parlez, la population en a marre d'une certaine manière de la politique de Mme Merkel?
Effectivement, pas seulement de Mme Merkel, mais d'une atmosphère politique ici en Allemagne qui donne un peu l'impression que tous les partis sont plus ou moins de même avis dans les grands domaines de la politique. Parce que même, surtout si on prend la question des réfugiés, tous les partis qui étaient représentés au Parlement, sauf peut-être la petite sœur de la CDU, la CSU de la Bavière, ont suivi Mme Merkel dans sa politique. Bien que dans la population, il y avait une grande opposition contre cette politique et cette opposition n'était pas représentée dans le Parlement.
Est-ce que cette montée d'extrême droite à travers de nombreux pays en Europe et même sur le continent américain, au-delà du ras-le-bol, est-ce que c'est également un synonyme de racisme selon vous?
Un certain nombre des gens qui ont ces pensées racistes, qui étaient toujours là, mais qui n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer dans le système politique parce qu'il n'y avait aucun parti qui pourrait vraiment entrer dans la politique, surtout dans le niveau national. Il y avait ces partis qui étaient représentés sur le niveau régional, ça existait. Mais maintenant, si on prend les études sur les pensées des gens en Allemagne, il y avait toujours un certain pourcentage, entre 15 et 20%, où les études ont dit, voilà, les gens ont une certaine pensée raciste. Donc actuellement, il y a un parti qui représente ça. C'est un signe qu'il y a un changement de l'atmosphère politique, effectivement.
Thomas Mosch, responsable du service Hausa de la Deutsche Welle. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.